Et c'est là, aujourd'hui, maintenant, que nous vous dévoilons, amis auditeurs, le lauréat du prix du Livre Inter. Réunis en conclave hier toute la journée, les jurés ont lu, débattu, argumenté, échangé et voté. Madame la Présidente, bonjour.
Bonjour.
Leïla Slimani, qui est le prix du Livre Inter 2018?
Alors, le prix du Livre Inter est Fief de David Lopez, publié aux éditions du Seuil.
Et bravo à lui! Bravo! Alors, dans le studio du 7-9 de France Inter, il y a une partie du jury qui a voté des lecteurs, des auditeurs de France Inter. Il y a Eva Bétan, bonjour.
Bonjour.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours peur quand je suis au micro avec vous. David Lopez, mes premiers mots pour vous adresser des félicitations. Fief est votre Merci. Premier roman, il est donc publié au Seuil. Êtes-vous fier? Êtes-vous heureux ce matin? Quelles émotions vous traversent?
Je suis, bien sûr, je suis très heureux, surtout pour le texte en fait. C'est un texte que... Au moment de l'écrire, au moment de le proposer à une maison d'édition, au moment où il a été publié, j'avais très peur qu'il soit pris pour ce qu'il
n'était pas.
Voilà. Et donc, il ressort que finalement, c'est plus que l'intérêt documentaire, c'est l'intérêt littéraire. Et j'en suis très fier, très heureux.
Dites-nous en quelques mots de quoi parle ce livre. Moi, je peux faire un résumé, mais je préfère que ce soit l'auteur lui-même qui le fasse.
C'est un roman dans lequel on est auprès d'une intériorité, un narrateur qui est un garçon qui vit entre banlieue et campagne avec sa bande de potes et que de cet entre-deux géographique, il y a quelque chose d'un entre-deux identitaire jusqu'à un entre-deux mental. Et un entre-deux dans l'entre-deux, parce qu'ils sont ni citadins, ni campagnards, mais en même temps, ils sont pas des Caïra, ils sont pas des petits bourges, on va dire. Donc, ils se situent, voilà, il y a l'entre-deux dans l'entre-deux, et finalement, il y a quelque chose qui s'opère autour d'une forme de repli, comme pour embrasser ça, quoi.
Madame la Présidente, Leïla Slimani, comment se sont déroulés les débats hier?
Alors, les débats se sont déroulés très bien, c'était très vif, très passionné. En fait, assez rapidement, le livre de David est ressorti, puisqu'on a fait un premier tour de table où j'ai demandé à chacun de donner ses coups de cœur. Et le livre de David a été le coup de cœur de pas mal de jurys. Moi, j'ai été impressionnée par la précision, par la passion de la lecture qu'ont exprimé chacun de ces jurys. Puis ensuite, on a quand même débattu, on a essayé de se convaincre les uns les autres, et c'est allé quand même relativement vite, puisqu'il a été élu au deuxième tour à la majorité absolue.
Il n'y a
absolue.
Pas eu débat ni vive polémique.
Non, vive polémique, non. Il y a eu débat, mais pas vive polémique, parce que c'est un livre qui avait quand même convaincu une bonne partie des lecteurs.
Mmh. Oui. Eva Bétan, comment avez-vous vécu ce dimanche littéraire?
J'ai eu même un peu peur que ça finisse trop tôt. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire d'eux si on a terminé à 18h? Parce que assez vite, c'est très rare qu'il y ait comme ça un jury avec, il y avait 2-3 livres, mais pas, qui ont vraiment concentré, d'autres qui ont été aimés, mais qui ont vraiment concentré l'intérêt. Et il a failli passer au premier tour de scrutin, ce qui est très rare.
Oui,
c'est arrivé
rare,
une seule fois, vous ne l'avez pas fait, mais vous avez failli. C'était Daniel Pénac pour La Petite Marchande de prose.
Ce qui ne nous rajeunit pas.
Je n'étais pas là.
Vous l'a raconté.
Et voilà. Donc, ça a été relativement facile. Et effectivement, il n'y a pas eu de contresens. Une chose, c'est que ça n'a pas été pris sous l'angle sociologique, c'est-à-dire qu'il parle d'une certaine jeunesse, mais
oui,
ça peut s'appliquer à une grande...
Oui, voilà. C'est ça n'est pas le roman de la jeunesse des banlieues périsurbaines.
Voilà, non.
Après l'essai rapide, le roman, c'est pas
voilà,
ça. Hein.
Non, ça exactement. En quelques phrases, dites-moi tout, non, c'est pas ça.
On va donner la parole à quelques jurés consensuels, donc, consentants. J'ai du mal à parler au micro et à me retourner en même temps, voilà, je viens de le faire. Alors, qui veut prendre la parole et nous expliquer comment ça s'est passé hier et qui a voté pour le livre et pourquoi?
Nous avons un magistrat, vous voulez qu'on fasse parler un magistrat?
Bah oui, la parole est
dans un jury.
La parole est à la défense.
Allez-y,
bonjour.
Vous mettez la pression.
Ouais.
Non, c'est une histoire avec des personnages formidables qui embarquent véritablement et qui, longtemps après la lecture, nous tient un petit peu, nous manque un peu. Donc pour le livre que j'ai lu après, ça a été un peu dur.
Oui,
c'était très attaché.
Que le micro circule, qui veut s'exprimer également?
Voilà, alors...
Allez-y.
Vous êtes, Patricia. Si je me souviens, Patricia, infirmière en EHPAD.
En EHPAD, c'est ça.
Voilà. Et vous aviez dit des choses assez profondes aussi sur ce livre.
Alors, je voudrais dire surtout 2-3 petites choses. La première, c'est que quand j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir finir ce livre.
Pour quelle raison?
C'est un langage qui est dérangeant au départ. Ça change de la lecture classique. Mais Justement, c'est la persévérance. Il y a un contrat avec France Inter, il faut lire tout. Hein. Il faut aller jusqu'au bout. Un contrat moral. Et à partir du deuxième chapitre, la magie a opéré. On entre dans un monde très particulier, avec des jeunes qui sont extrêmement attachants. Il y a un chapitre, notamment le chapitre virgule sur la dictée, que j'ai vraiment éclaté de rire tout du long. C'est un sketch. Vraiment, c'est quelque chose à mettre en scène. Et puis, il y a des moments de tendresse et des moments de proximité aussi dans ce langage un peu dur, mais qui fait aussi parfois référence aussi à des mots plus classiques. Il y a des perceptions de la nature, une capacité de perfection chez ces jeunes, chez un jeune notamment. Hein, on a cité hier soir la coccinelle.
Alors il le faut fait expliquer de en deux mots. Les ailes. Oui,
Il fait sécher les ailes d'une coccinelle. Il va jusque là, quoi. Il lui donne la possibilité de s'envoler, de partir de cette mort éventuelle.
Vous devriez faire de la radio. Hein. Vous êtes très 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 bonne. Hein.
Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est surtout l'esprit de France Inter. Moi, j'ai lu en me disant, c'est un livre qui doit représenter aussi l'esprit de cette maison que nous aimons, hein, puisque c'est la radio à laquelle nous sommes accrochés, pas 24 heures sur 24, mais presque.
Essayez de définir cet esprit pour nous qui y travaillons.
Alors, j'ai dit hier, très sincèrement, je peux pas trouver d'autres mots, c'est une radio qui nous tire vers le haut. Intelligente, on sent que variée, il y a de l'humour, il y a de la politique, il y a de la culture, enfin c'est très 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 varié.
De la politesse et de l'élégance,
voilà.
Du charme.
Voilà, notamment quand vous êtes là.
Oh. Oh, je me retourne.
Mais on sent une excellente équipe, vous faites partie de nos vies, vraiment, et vous entrez dans notre intimité, voilà. On a des voix, mais on a aussi toute une ambiance, toute une atmosphère. Et ce livre-là, je trouve, est à l'image de France Inter. Il est audacieux, il est jeune, il y a des côtés classiques, mais il y a des côtés qui vont certainement bouleverser et peut-être aussi contrarier certains lecteurs plus traditionnels, on va dire. Mais c'est une audace, voilà.
Ben écoutez, merci beaucoup. Moi, j'ai envie de vous applaudir, non pas pour tout le bien que vous avez dit de France Inter, ça fait du bien aussi, mais pour la qualité absolument incroyable de votre intervention. Qui veut prendre parmi les membres du jury la parole
encore ? Est-ce que Théo Roche est charpentier et il avait dit des choses très belles sur le fait que justement, la langue, il vous parlait de l'évolution de la langue, parce qu'il y a deux langues en quelque sorte dans ce livre, ou peut-être plusieurs, la langue des banlieues, la langue Kaira, et la langue classique. Et vous parliez du fait que c'est bien qu'un livre montre que la langue évolue.
Ben oui, tout à fait. En fait, moi, ce langage-là que j'ai aidé, en fait, j'ai trouvé qu'il était hyper réaliste dans ton livre. Parce que, j'ai trouvé que t'avais... Pourtant, c'était pas du tout moi, et j'avais l'impression d'avoir quelque chose d'extrêmement réaliste. Et ce langage, justement, je m'amuse des fois à l'avoir avec mes enfants à la maison. Et ils l'ont aussi, voilà. Et je l'ai eu dans le temps avec mes copains de cité. Et il n'est pas si récent que ça, au final. Il a évolué, il n'est pas si neuf. Et c'est important d'avoir un livre avec ce langage-là. Et Céline, cette dictée sur Céline, moi, tu m'as poussé à lire « Voyage au bout de la nuit ». Et j'ai découvert Céline alors que j'en avais entendu parler X fois et j'aurais jamais tout seul été lire ce livre-là, quoi. Donc je pense que ça, c'est précieux.
Bon, David Lopez, comment vous recevez toutes ces paroles de lecteurs ?
Moi, je trouve ça incroyable. Alors déjà, c'est extrêmement généreux. Quand les gens me parlent de mon texte, j'ai l'impression d'apprendre des choses dessus, quoi. Donc je suis vraiment très touché. Je me rends compte à quel point... voilà, il y a vraiment une lecture très 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 pointue. Moi, je suis très impressionné à chaque fois.
Comment vous avez travaillé, je dirais, d'un pur point de vue stylistique, ouais. Parce que c'est aussi une langue classique dans laquelle est enchâssé ce que vous disiez, Théo, à l'instant, à savoir la manière de parler, le rythme, les sonorités, les mots de la banlieue, pour le dire très très vite. Ouais. Mais l'ensemble est une ossature tout de même assez classique. Et je me suis dit, effectivement, ça doit être Céline, Louis Ferdinand.
Après, il y a un côté où effectivement j'aurais pu vouloir être absolument radical dans l'oralité et vouloir la mettre absolument partout, mais j'ai peut-être fait quelques essais qui me montraient que finalement trop d'oralité tuait l'oralité et que là où il y avait de l'oralité, finalement j'étais plus amené à l'entendre, et que en en mettant un autre statut à l'écriture quand c'est la narration. Après, c'est des exemples tout bêtes, comme par exemple les négations. Quand je fais parler un personnage, il n'y aura pas la négation, ainsi de suite. Voilà, ce genre de choses.
Seul Bernard Guetta les fait encore au micro de France Inter.
Ben, mon narrateur, il les fait. Quoi. Et en fait, ben, ça permet de donner un statut à l'oralité que là où elle se présente. Parce que moi, je voulais vraiment être sur quelque chose de sonore. Je travaille énormément à l'oreille. Il y a des moments
vous
comme
lisez
ça,
à haute voix une fois que vous avez écrit
je murmure pas mal, je crois, mais je fais pas vraiment ce truc de voilà, c'est la phase où je lis à voix haute pour l'entendre.
Ça
mais
elle arrive dans 30 secondes, celle-là. Ouais.
Mais le fait est que, ouais, après, il y a des moments comme ça où on est tenté. Moi, il y a une oralité comme ça que je qualifierais de typographique, où par exemple, si un personnage dit où est-ce qu'on va, on va l'écrire O-U-E-2-S-E. Et par exemple, j'ai été tenté de faire des choses comme ça, mais moi, ce qui me dérange, c'est que c'est une oralité que je dis typographique parce que je la vois. Et en la voyant, je me la fais entendre, mais je n'entends pas en premier. Donc je dois reconnaître que je suis censé l'entendre, et là, moi, je me la fais entendre. Et c'est pas le texte qui me le fait entendre. Donc moi, je voulais vraiment être sur quelque chose d'hyper sonore. Donc voilà, j'ai un rapport aussi très très sonore à l'écriture, parce que j'ai beaucoup écrit des couplets de rap, tout ça. Et donc quelque chose de voilà autour de cette rythmique, le rapport à la mesure, le rapport au rythme. Et donc voilà, je fonctionne vraiment à l'oreille. Et je voulais vraiment que l'oralité ait un statut bien spécifique dans le texte.
Leïla Slimani, pour être présidente, vous n'en êtes pas moins lectrice. Comment avez-vous lu et vécu ce texte ?
Alors moi, je suis très très contente parce que c'est un texte que j'ai beaucoup défendu et je suis très heureuse de pouvoir venir à la matinale avec un livre que j'ai vraiment sincèrement aimé et un auteur dont j'ai admiré le travail. Moi, ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est effectivement la prouesse stylistique, le fait d'avoir travaillé sur ce langage oral, mais c'est aussi le fait qu'il met en valeur qu'on a tous plusieurs langages en nous. On a un langage avec nos amis, on a un langage avec nos parents, on a un langage dans la rue, au travail, et cette espèce de multiplicité de vocabulaire qui vivent dans toute intériorité, ça il le met de manière extraordinaire en scène. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis c'est un texte que moi j'ai trouvé extrêmement mélancolique. Il y a une atmosphère tout à fait particulière. Ce personnage principal, c'est quelqu'un à qui on demande tout le temps, et alors qu'est-ce que tu vas faire ? Et qui répond d'une certaine manière, je sais pas ce que je vais faire. Et c'est un texte sur l'absence d'avenir, mais pas de manière désespérée, pas de manière sociologique justement, mais simplement sur quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que demain sera et de quoi demain sera fait. Donc ça donne une atmosphère comme ça très très belle. Et j'ajouterais que c'est aussi, il y a un très très beau personnage de femme, et c'est ce que j'ai dit à un moment avec les jurys. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que cette femme très solaire, très combattante, elle, on sent qu'elle a saisi la vie, elle avance, elle va réussir, et les garçons sont très en arrière, sont très passifs, attendent, ils regardent les trains passer et ils savent pas.
Là, ils sont
et là
faibles, hein.
Voilà, et il y a une grande modernité, moi je trouve, là-dedans, dans cette espèce un peu de crise de la virilité, alors que les femmes sont en train d'aller vers autre chose, prennent leur vie en main. Voilà, j'ai pu placer ma petite analyse sociologique du monde contemporain.
Et je passe le micro à Léa Salamé qui va finir maintenant.
Le pauvre, il a l'impression de vivre ce que vous racontez tous les matins avec moi, Nicolas Demorand.
Et c'est pas un roman, c'est une tragédie.
Non, je trouve que les personnages, et le personnage principal notamment, David Lopez, c'est un peu une figure, un anti-héros, presque une figure anti-macronienne, qui refuse la réussite et l'important c'est d'avoir du boulot, mais du boulot pourquoi, etc. Il est un petit peu, oui, paradoxal et contradictoire par rapport à l'air du temps depuis un an, avec ces figures de winner macronien. Ouais. Et vous, c'est pas ça?
Ben non, parce que quelque part, en fin de compte, ces garçons-là, ils sont plutôt écrasés par ça, par cette espèce d'injonction perpétuelle à la réussite, à progresser socialement. Et alors même que dans ce genre d'endroit, finalement la réussite, le premier indicateur de réussite, c'est d'être parti. Alors finalement voilà, ils intériorisent quelque chose de l'ordre d'une espèce d'échec programmé. Je me rappelle qu'il y a des années, Kerry James chantait « On n'est pas condamné à l'échec ». Donc c'est bien qu'il y avait toute une partie de la population à qui il fallait dire ça.
Comment vous expliquez, vous parlez du rap, comment vous expliquez le retour de hype du rap français aujourd'hui ?
Pour moi,
c'est les seuls albums qui vendent aujourd'hui, c'est les albums de rap.
Ah oui, oui, oui.
Et comment
en plus, ce qu'il y a, c'est que quelque part, le rap, c'est un peu déconnecté de ses enjeux éthiques. pour se reconnecter à des enjeux esthétiques. Et quelque part, il a enfin accepté qu'il était une forme artistique. J'ai écrit un papier dans Libé là, dans lequel justement je parlais de ce conflit éthico-esthétique où quand un mec me dit ça c'est pas du rap parce que c'est pas engagé politiquement, bah je trouve ça très dangereux en fait parce que c'est la confiscation d'une esthétique au nom d'une éthique et donc c'est la négation de la forme et donc la négation même de l'art. Donc je considère que rythmiquement s'il y a du débit avec un certain BPM tout ça, je fais un texte sur les pâquerettes, formellement c'est du rap. Maintenant si on me dit non mais c'est pas engagé, bon bah d'accord, ok, mais alors qui est du rap engagé, moi je veux bien dans le paysage, mais la confiscation, je trouve que c'est un problème. Et finalement, bah, peut-être aussi parce que bah, devant ce côté un peu répétitif, bah, y a des mecs aujourd'hui qui arrivent et qui proposent esthétiquement autre chose, avec peut-être des... Justement, ils s'écartent un peu des discours et ils font de la musique. Et aujourd'hui, comme on dit, bon, on s'enjaille sur d'autres droits.
J'ai une question pour le membre du jury magistrat. Est-ce que ce livre est une apologie de la vente et de la dépénalisation du cannabis, monsieur le magistrat?
Comme vous y allez, là, vous allez me mettre en difficulté. Non, c'est de la littérature, évidemment.
Ah, donc on peut, en littérature, on a le droit.
On peut tout.
On peut tout, hein.
Tout est possible.
C'est hors la loi, effectivement. Vous nous lisez un petit extrait, David Lopez?
Alors oui.
Allez-y.
Alors, juste un mot, il faut resituer. Pour l'introduire, et ouais. Il dit deux mots pourquoi il fait cette dictée. Laïs, il est celui qui est un peu sorti du lot, il a fait des
c'est
études.
Ça, c'est un peu le transfuge.
Voilà, c'est le transfuge, presque quasi le traître. Et il fait à ses potes une dictée. Voilà.
Juste parce que voilà, il y a eu un débat sur qui est le plus nul en français. Donc lui, il dit, bah, venez, on fait une dictée, quoi. Donc voilà, il y a un court extrait qui fait ceci. On en était où, demande Laïs. Tandis que le plaisir est la nécessité, je dis. Et poteau, il lui manquait le mot nécessité. Laïs reprend. Je disais donc, et là seulement je reprends le fil de la dictée, Habib. Le plaisir et la nécessité, ont des hontes. Et la nécessité ont des hontes, point. Le plaisir et la nécessité ont des hontes, point. Ah d'accord, il restait trois mots en fait. Laïs propose une nouvelle citation, mais X dit, vas-y, c'est bon là. Il insiste, il dit que la dernière, il l'a gardée au chaud, exprès pour nous. Un tel dit qu'il a qu'à nous la lire, ça suffira. Et X dit, ouais, vas-y, lis-la d'abord, et on va te dire, nous. Laïs reprend son cahier, tourne une page, puis lit. Il y a 3 secondes de silence, coupé par Poteau, qui dit que rien qu'à cause du mot irrémédiable, il n'a pas envie de l'écrire. X est perplexe, et il demande à Laïs de répéter ce qu'il fait. On devient rapidement vieux, et de manière irrémédiable encore. On s'en aperçoit à la manière qu'on a prise d'aimer son malheur malgré soi.
C'est magnifique.
On m'a dit court. Hein.
Et ce qu'il y a de terrible, c'est que X, le personnage, est super blessé parce qu'il se reconnaît et il croit qu'il dit ça pour lui. Alors je raconte la suite de l'histoire, je ne vais pas vous raconter tout le livre. Ouais. Et ce qu'il y a de formidable, c'est l'identification. Donc ce garçon qui n'a jamais lu ses lignes se reconnaît dans ses lignes et il est vexé. Comment tu me dis ça, moi?
Non, mais d'autant plus que même avant, quand il leur fait d'autres citations, lui, en fait, au moment où il est en train d'écrire, il dit « Putain, mais je comprends rien à ce que j'écris, quoi. » Et alors même, du coup, pendant la dictée, finalement, il est là à se dire « Ben non, mais moi, en fait, je ne suis pas capable de comprendre. » Mais au moment où on lui lit quelque chose dans lequel il est capable de se projeter, ben en fait, il comprend très bien.
Alors c'est quoi ce fief?
Fief. Bah fief.
C'est où?
Bah c'est pas. En fait, c'est dans plein d'endroits. Moi, il y a des gens des banlieues d'un peu partout qui m'ont dit, mais ouais, mais moi le personnage là, je le connais, c'est mon poteau Baptiste, voilà. En fait, bah alors c'est un peu partout où on est assez loin de la ville, mais pas tout près non plus de la campagne. C'est la banlieue de la banlieue. Fief, moi, je le vois comme finalement la chose à soi, quoi. Donc il y a quelque chose de territorial, c'est là où on est chez soi, auprès des siens, et finalement c'est complètement raccord avec ce que ressentent les personnages du livre parce que
et je me suis demandé si c'était pas au moins autant un moment qu'un lieu. Le moment, ouais. C'est-à-dire entre l'enfance et le jeune âge
adulte. Ouais, parce qu'il y a quelque chose autour d'un...
Et ça, c'est, à mon avis, l'expérience de lecture commune à tous ceux qui mettent le nez dans ce livre-là. C'est qu'on est ou on va passer par cette époque de la vie.
Complètement. C'est vrai qu'il y a quelque chose autour d'un passage à l'âge adulte qui s'opère pas, ou dans lequel, justement, les enjeux deviennent tellement... Ils sont complètement débordés parce qu'ils n'ont pas de plan, en fait. Et là où Jonas a un talent, il n'a pas le plan, il n'a pas l'ambition derrière. Donc lui, il n'est pas sans perspective, quoi. Mais il est complètement pris par cette injonction un peu contradictoire entre l'émancipation et la fidélité au milieu, parce que selon eux, il semblerait que ça puisse s'annuler.
Ça vous a rappelé votre enfance ou pas dans les... parmi les membres du jury.
Pago, Chaki.
Pago, Pagui.
Pagui, Chaco, pardon.
Merci Eva. Mais en fait...
Evo, en fait, c'est son vrai nom.
Camouflage. En fait, moi, c'est la première fois que j'ai lu le livre dans les mains. Alors, juste une parenthèse avant, je tiens à féliciter quand même tous les autres qui ont concouru, leur dire qu'ils n'ont pas démérité, parce que dans l'assistance, ils ont tous, à un moment donné, été défendus. Et ça, c'était important de le rappeler.
Magnifique.
Voilà.
Super, vraiment, ça, c'est donc, l'esprit de Coubertin.
Ouais, donc, mais c'est vrai que moi, la première fois que j'ai eu, je vais le dire sincèrement, la première fois que j'ai eu le livre entre les mains, je me suis pris un hypercute. Mais réellement, je me suis dit, oh putain, de la balle, un livre qui parle de nous. Enfin, voilà, je me suis dit, c'est ouf qu'il ait une telle liberté de ton, une telle générosité dans la forme, dans l'écriture. Et en même temps, il y a des moments comme ça, très ciselés, très contenus, et ça monte en puissance quand il commence, par exemple, à exprimer le moment de préparation avant un combat, et mentalement on s'y prépare. Donc il y a toute une écriture, une langue effectivement qui est travaillée, qui est corsetée, qui va jusqu'au bout des choses, et en même temps, le fond, quand il se pose des questions existentielles sur est-ce que je suis une mauvaise herbe, où je suis, où est ma place, c'est des questions existentielles.
Mathilde, vous voulez dire un mot? Comment ça s'est passé? Est-ce que moi, je vous dis, ça m'a rappelé le passage de l'âge enfant à l'âge adulte. Donc, mais je suis peut-être monomaniaque de la question du vieillissement.
grand spécialiste
en tout cas. Et vous, comment l'avez-vous lu?
Moi, c'était une lecture coup de poing aussi. J'ai trouvé une force dans le langage qui était absolument incroyable. C'est ce que j'ai dit hier, beaucoup plus de complexité qu'on ne l'imagine au premier abord, ce texte. Ouais. Et voilà, de la générosité, beaucoup de scènes drôles, des scènes touchantes aussi. Un grand, grand coup de cœur. Et je suis très, très fière d'avoir contrivé à choisir ce livre-là.
Eh bien, merci. Merci à vous, merci à tous. Merci, David Lopez. Bravo pour le prix du livre Inter.
Bravo.
Bravo, vraiment. Merci Madame la Présidente, Leïla Slimani. Merci Eva Bettan. Il y a un tweet, Eva Bettan, qui vous est directement adressé. Catherine, ça fait 35 ans que j'écris une lettre pour être dans le jury. Échec à chaque fois. Quelle est la clé, chère Eva Bettan? Je recommencerai l'année prochaine, mais quand même, j'aurais aimé débattre avec Leïla Slimani. Alors, c'est quoi la clé?
L'an dernier, il y a quelqu'un qui a été un de nos jurés, avait écrit depuis le premier livre Inter 43 fois.
C'est voilà, donc la clé. C'est la patience, Catherine. Voilà. Allez, merci à tous. Merci beaucoup d'être venus dans le 7-9 ce matin. Le Carrefour est à suivre. Il est 8h44.